Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 33 de la saison 4. Nous n'avons malheureusement pas tous de la chance d'être en bonne santé et d'avoir une composition génétique régulière. Certaines d'entre nous ne le savent pas, et ne le sauront peut-être jamais, mais un de leurs gènes est défaillant. Sans rentrer dans les détails et vous faire un cours de biologie, je vous explique sommairement le mécanisme. Lorsque l'on transmet un gène, il se peut que la défaillance ne s'exprime pas. Mais si les deux gènes transmis sont défaillants, l'histoire est tout autre. Parfois, la défaillance peut entraîner une maladie génétique plus ou moins rare et plus ou moins grave. C'est ce qui est arrivé dans la famille de Céline. Un de ses neveux a été atteint et est décédé d'une amyotrophie spinale infantile. Lorsqu'Élise et Cécile réfléchissent à leur parentalité, il est alors évident qu'il faut vérifier que Céline n'est pas porteuse de cette maladie. Elles prennent rapidement un rendez-vous qui va s'avérer désastreux, durant lequel on leur refuse le prélèvement leur permettant de se projeter dans une grossesse sereinement. Elles prennent alors la décision, qui de toutes les manières s'imposait d'elle-même du fait de l'avancée de la nouvelle loi bioéthique, de se rendre en Belgique pour réaliser ce test essentiel. De fait, ce test aura un coût qu'elles n'auraient pas eu à supporter en France. De fait, tout le monde ne peut pas y accéder alors que la carte génétique n'est pas dépendante du niveau de vie. De fait, l'injustice et la discrimination sont présentes dans tout cet épisode. Je vous rassure, l'histoire finit bien. Au moment de cet enregistrement, j'ai fait la connaissance de leur petite Ambroise, un magnifique petit bébé en pleine santé. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast @lesenfantsvontbienpodcast, ainsi que dans la description de l'épisode. Bonjour Élise.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. J'avoue que je suis curieuse, tu m'as raconté votre histoire avec ta femme Céline, surtout l'histoire de la conception de votre petit garçon, j'allais dire votre petit-fils, mais en fait votre petit-fils ça va pas.
Non, pas encore.
Donc de votre petit garçon Ambroise, qui n'a pas été une conception, on va dire, habituelle dans le sens où vous avez dû faire face à des questions très tôt, peut-être même juste dans votre réflexion. Je ne vais pas en dévoiler plus, mais est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ?
Alors moi, je me présente, je suis Élise, j'ai 37 ans, je suis accompagnante en périnatalité et avant, j'étais infirmière et cadre dans le médico-social. Et je suis mariée à mon amoureuse Céline, qui elle a 38 ans, elle est docteure en biologie et nous sommes les heureuses mamans de notre petit Ambroise qui a 5 mois, qui a été porté par Céline.
Et donc maintenant, tu fais partie du collectif aussi, du collectif
Famille. Oui, tout à fait, collectif Famille, je m'occupe des adhésions depuis fin 2022.
Ouais, voilà, exactement, depuis fin 2022. Et alors, du coup, donc toi, tu m'as raconté votre histoire sur laquelle j'avoue que j'ai fait des bons. Voilà. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être utile, encore une fois, dans le sens de rappeler à nos auditeurs que c'est important de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance à son instinct. De ne pas hésiter à changer de praticien ou à changer de crèmerie, dirons-nous, si le doute est présent. Déjà, pour commencer, alors tu vous êtes déjà présenté, donc on va pas commencer, mais est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrée avec Céline?
Alors, nous, on s'est rencontrés en 2019. En fait, fin avril 2019, j'ai mis un terme dans ma relation avec mon ex-compagne. Et suite à ça, en fait, j'étais en poste infirmier et je me suis dit, tiens, je vais faire un projet, je vais partir vivre à La Réunion. Et projet prévu pour janvier 2020. Donc, je me lance corps et âme dans ce projet-là. Je cherche des jobs, je cherche des appartements. Je suis en train de vendre des trucs. Enfin, vraiment, je suis à fond dedans. J'ai prévenu mes chefs. Elles me disent, OK, pas de souci pour le congé sabbatique. Tu nous fais la lettre fin septembre 2019 pour être libre au 1er janvier. Donc, et par la même occasion, en fait, j'ai mes amis qui m'ont dit, mais inscris-toi sur Tinder, fais des rencontres avant de partir. Donc, bon, bah ok, je m'inscris, je rencontre des personnes, mais voilà, je bois un verre, mais c'est rien de plus. Et du coup, début août 2019, j'achète mon billet aller pour La Réunion. Et à la mi-août, je reçois un super like sur Tinder d'une nana qui a l'air pétillante, une description très sympa, enfin... Très simple, mais très sympa, et on décide de se rencontrer. Et on se rencontre, et du coup, coup de foudre. Mais coup de foudre littéral, j'arrive, je la vois sur la place, je suis quoi, à quelques mètres d'elle, et là, c'est comme dans les films américains, où t'as le halo lumineux autour de la personne, le sourire bright, tu vois. Et là, je sais pas, il se passe vraiment quelque chose. Donc, on passe la soirée, mais je pouvais pas rester très très longtemps, parce que moi, le lendemain, je renquillais pour 12 heures de travail. Et on se voit la semaine d'après, et franchement, coup de foudre de nouveau, et là, on s'est mis ensemble. Et le projet de La Réunion, il commençait un petit peu à...
prendre l'eau.
À prendre l'eau, ouais, complètement. Et du coup, je dis, Céline, elle savait que je devais partir vivre à La Réunion. Je dis, sinon, je pars 6 mois. Puis les autres 6 mois, je fais autre chose. Enfin, voilà. Après, je dis, non, je vais partir 4 mois, 2 mois. En fait, c'était ridicule. Enfin, vraiment, c'était ridicule. Et j'ai une de mes amies qui me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu cherchais dans ton projet de La Réunion? Je dis, en fait, je voulais du renouveau. Je voulais quelque chose qui me fasse vibrer, qui me rende vivante. Je dis, en fait, c'est tout ce que Céline m'apporte, en fait. On s'apporte l'une et l'autre. Et voilà, donc du coup, j'ai dit à mes chefs que je ne partais pas à La Réunion. Et j'ai pris un billet retour. Céline, elle a pris un aller-retour et on est parti 15 jours à La Réunion en janvier 2020. On est passé entre les deux cyclones. Et en fait, on a bien fait parce qu'après, il y a eu le confinement, le Covid, tout ça, la crise sanitaire. Donc, voilà. Donc, voilà notre histoire et c'est parti très vite. En octobre, on faisait déjà une liste des invités de notre mariage. Enfin, voilà, ça a parti très vite. Et en décembre, on habitait ensemble. Enfin, voilà, on a fait le cliché lesbien. Mais voilà, c'était j'avais jamais eu ça avant et là clairement c'était une évidence, en fait ça a été évident pour l'une comme l'autre, et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Ah, c'est génial, c'est trop mignon. Donc ça, c'était un épisode de la Saint-Valentin. Non, je rigole pas.
Mais c'était un épisode, j'avais enregistré les mariages là, demandes en mariage.
Exactement, t'avais enregistré les demandes en mariage. Et alors du coup, vu que vous êtes allé très vite, je suppose que vous avez probablement très vite par les bébés.
Alors oui, on a parlé, on a très vite par les bébés. En fait, on s'est demandé en mariage et en même temps, on s'est dit, on avait les mêmes valeurs en fait. Comme moi, j'allais avoir 34 ans, enfin, je venais d'avoir 34 ans, Céline 35. Mm-hmm. On n'avait pas le temps de biaiser, quoi. On n'avait pas le temps on savait quoi. C'était évident, on savait. Donc on s'est dit, allez. On sait que c'est des projets qui prennent du temps. Donc on a décidé de faire des recherches. Donc je cherche des informations et je tombe sur quoi les enfants vont bien. Donc, merci Constance vraiment parce que ça m'a permis de. Mais vraiment, hein, c'est pas. Je dis pas ça comme ça, mais réellement, en fait, ça m'a permis de déterminer plusieurs types de conceptions, etc. Donc on a trois qui nous ont. par exemple, la PMA à l'étranger, nous, c'est, on connaissait. Mais par exemple, la PMA un peu clandestine avec un gynéco, avec un don de sperme, avec dans une banque, et aussi, ou l'achat de paillettes et le faire artisanalement. En fait, c'était les trois solutions qui étaient mises sur la table.
D'accord, c'était les trois options mises sur la table. Du coup, pour vous deux, c'était évident que vous alliez faire un bébé. Enfin, en fait, la discussion, elle s'est presque même pas posée, quoi, finalement. Enfin, c'était surtout le comment plus que le.
Ouais, c'est ça. C'était plus. En fait, ça a été quand on s'est rencontrés, moi, ça a fait tomber toutes les barrières sur. Ça a été évident. Je savais que je l'épouserais. Je savais que ça serait avec elle. Je ferais des enfants. Et réciproquement, en fait. Céline n'avait pas eu l'occasion dans sa vie d'avoir des relations posées du fait de ses longues études puis après sa vie aux États-Unis, donc elle a pas eu le temps de se focus là-dessus, et quand on s'est rencontrés vraiment ça a été l'évidence. Et après on est parti, on s'est dit oui, on y va, parce qu'on va commencer à réfléchir au projet. On va pas commencer pour dans 6 mois, mais c'était pour qu'au bout de 2-3 ans de relation, on commence à mettre vraiment le projet bébé en route.
Ouais, d'accord. Donc, c'était un projet à 2-3 ans, quoi.
Bon, voilà, mais on savait que ça allait prendre du temps. Il fallait le temps de réfléchir. Et en fait, en plus, dans la famille de Céline, il y a quand même une particularité qui n'est pas anodine, qui est vraiment l'objet de notre entretien aujourd'hui. Donc, en fait, Céline, elle est la dernière d'une sororie de 5. Mm-hmm. Ses 4 grandes sœurs, elles sont issues du premier mariage de leur maman. Donc, en fait, du coup, on n'a pas le même papa. Mmh. Et en 2001, la grande sœur de Céline a fait une PMA avec son mari. Et ils ont eu, au dernier essai de FIV, ils ont réussi à avoir un petit bébé. Donc, le bébé, il naît, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, ils se rendent compte qu'il est hypotonique, qu'il tient très peu sa tête, qu'il tète très, très difficilement. Donc, il y a des inquiétudes qui se mettent en place. Et il y a un diagnostic qui est fait. Et le coup près tombe. Et en fait, c'est une amyotrophie spinale infantile. Donc, en fait, ça se caractérise par une faiblesse musculaire de gravité variable et qui retentit, en fait, sur les capacités motrices et la fonction respiratoire, mais qui n'a pas d'impact sur les fonctions cognitives.
D'accord, ok. Et ça se soigne ?
Non, ça ne se soigne pas, c'est des maladies incurables. Alors, en fait, maintenant, il y a des traitements qui existent pour ralentir la maladie et offrir une vie plus longue et beaucoup plus de meilleure qualité, en fait.
D'accord, ok.
Ça peut la ralentir, voilà, stopper. Donc,
je
suis sûre à 100% de cette réponse-là, mais
oui, oui.
Il y a vraiment des traitements qui sont... Voilà, aujourd'hui, il existe des traitements pour ralentir la maladie drastiquement.
D'accord, ok. Mais je suppose qu'à l'époque, donc, votre petit-neveu n'en a pas bénéficié ?
Non, il n'en a pas bénéficié parce que là, c'est depuis 5 ans à peu près que ça existe et le petit, lui, il est décédé en 2011. Donc, il avait un peu avant ses 10 ans, il est décédé.
D'accord, ok. Ouais,
voilà, quand tu...
Pathologie lourde, quoi.
Pathologie lourde. Donc, en fait, il existe 4 stades de cette pathologie qui va... le stade 1, c'est du... En fait, il y a le stade 0 in utero, donc c'est le décès assuré, IMG, c'est très, très grave de conséquences. Le stade 1, ça touche les nourrissons de 0 à 6 mois. Le stade 2, 6, 18. Le stade 3, c'est à partir de 18 mois. Et le stade 4, c'est chez l'adulte.
D'accord.
Donc, en fait, plus tu es de bas dans le stade, plus il y a de risque de mortalité.
D'accord, ok.
Donc, c'est une pathologie récessive. En fait, il faut que les deux personnes qui soient dans la procréation de cet enfant soient porteuses d'une défaillance génétique. Donc, si les deux personnes qui ont cette défaillance génétique, donc on dit que c'est récessif, il y a un risque sur 4 pour que l'enfant développe la maladie. Et il y a une personne sur 6 000 qui est porteuse de cette défaillance. Après, le risque diminue du fait rencontrer une personne qui a la même défaillance, c'est plus ouais. C'est plus rare.
Et du coup, ça c'est étrange. Enfin, c'est étrange. Non, c'est pas étrange. J'en sais rien en fait finalement. Mais en PMA, quand t'es en parcours PMA, normalement, il me semble qu'il y a des tests génétiques pour déterminer les. Alors peut-être que c'est les principales maladies génétiques, mais si tu me dis que c'est une personne sur 6 000, je pense que ça fait partie d'une des principales.
Je pense que en 2001, il devait pas y avoir tout cela. Il devait pas y avoir ces tests-là. Je sais que par exemple la mucoviscidose ou d'autres pathologies sont testées, mais et en plus l'amyotrophie spinale infantile, c'est elle arrive juste derrière la mucoviscidose en termes d'incidence. Il y a environ 125 bébés qui naissent par an avec cette pathologie.
Waouh. Wow. Ouais. D'accord. Ok. Et donc Du coup, enfin, je suppose que Élise pouvait potentiellement être porteuse de, ben, en tout cas, d'un gène récessif, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc, en fait, pour juste recontextualiser, pour bien expliquer aux auditorices, c'est que nous, quand on est bien portant, qu'on n'a pas de la défaillance génétique, donc on, mettons, on a les deux chromosomes, c'est-à-dire, et on a le gène SMN1 sur chaque chromosome. Donc, c'est-à-dire que quand on se reproduit, il y a forcément un gène avec une copie qui est dessus. Quand on est porteur dit sain, c'est-à-dire que on n'a pas la pathologie, on n'a pas la maladie, on développe pas la maladie, mais on est porteur sain de cette pathologie. Vous imaginez, vous avez deux chromosomes, donc si on a un chromosome qui a la copie du gène SMN1, donc ça c'est bon, c'est ce qu'il faut, et un chromosome qui n'a pas la copie. Donc quand on n'a pas la copie, c'est là que ça développe la défaillance, la dégénérescence musculaire.
D'accord.
Et en porteur sain aussi. Vous imaginez aussi les deux chromosomes. Il y en a un, il a deux copies. Il y en a un, il a zéro copie. Donc, deux copies, c'est ce qu'il nous faut, en fait. Il nous faut qu'il soit sur... Mais l'idéal, c'est qu'il soit sur une copie sur chaque chromosome. Et du coup, cette histoire de deux copies sur le même chromosome est importante pour la suite de l'histoire.
D'accord, ok. Ok, donc on garde ça en tête.
Voilà.
Et donc, toi, je suppose que tu savais, mais forcément, vous vous mettez en alerte en vous disant que ce serait peut-être bien de faire diagnostiquer Céline.
Ah ben, complètement. Ouais. Sur les quatre sœurs, il y en a deux qui... celle qui a eu le petit, forcément, a été diagnostiquée. Mais dans les autres, trois autres sœurs, il y en a deux qui se sont fait tester, qui, elles, étaient positives aussi, à cette, négative, qui présentait cette défaillance, et une qui ne s'est pas fait tester parce qu'elle était enceinte au moment du diagnostic du petit, et elle est accouchée un mois après. Après, il n'y a pas eu d'autres enfants chez elle, donc du coup, elle ne s'est pas fait tester.
D'accord.
Donc, okay. Nous, en fait, l'hypothèse, c'est que soit c'est la maman qui était porteuse de la pathologie, soit c'est leur père biologique qui était porteur. Mais ça, on ne pourra jamais le déterminer puisqu'il est décédé.
D'accord, ok. Et du coup, si c'était la maman, si c'était la maman, forcément, Céline pouvait être porteuse. Si c'était le père biologique, pour le coup...
Elle pouvait ne pas l'être.
Ok. Et du coup, vous lancez dans le test. Je suppose que ça fait partie... parce que, bon, faut déterminer qui va porter le bébé aussi. Et je suppose que ça, c'est forcément déterminant.
Alors nous, en fait, on voulait porter un enfant chacune. Donc on savait que dans notre projet, on avait envie de porter chacune un enfant. Dans tous les cas, on testait Céline.
D'accord, ok.
On a dit qu'on teste Céline. Donc du coup, on a pris rendez-vous au centre de génétique de Rouen. Donc nous, on était en Normandie et on a pris rendez-vous à Rouen et c'était en plein confinement. Donc du coup, on a eu rendez-vous en visio. Et il s'avère qu'en plus, le centre de Rouen, c'est lui qui avait fait le test, qui avait diagnostiqué le petit. Eux, ils sont de Bretagne. Et du coup, le test, il avait été envoyé à Rouen. C'est eux qui avaient tous les documents concernant l'enfant, le neveu. Donc, on partait quand même en bonne confiance. On s'est dit, ouais, ils connaissent un peu le dossier quand même.
Ouais.
Et on arrive au rendez-vous visio. Donc, on est toutes les deux. Et là, on apparaît à la caméra. Deux dames apparaissent. Et puis, puis il envoie des grimaces, c'est-à-dire qui est Céline. Et Céline se présente, elle dit c'est moi Céline. Et là je vous présente ma, elle a pas eu le temps de dire je vous présente ma femme qu'elle a dit. Et elle c'est qui? Elle dit c'est ma femme avec qui on va faire notre bébé, etc. Enfin voilà, enfin c'est. Et puis là tout de suite il y a pas de projet parental. Pardon, si, il y a un projet parental, il y a un projet parental par PMA. Effectivement, la loi bioéthique n'était pas encore passée à ce moment-là, mais on avait quand même un projet parental. On se disait qu'on était française, vivant en France, avec même si on allait faire notre projet peut-être à l'étranger, enfin, on avait quand même le droit de savoir si on courait des risques ou pas.
Bien sûr.
Donc voilà, on s'est senti. Moi, c'est la première fois dans ma vie que je me suis sentie discriminée comme ça. Et puis répéter deux trois fois quand même, il n'y a pas de projet parental, c'était un peu difficile. Et puis à un moment donné, on s'est même senti infantilisé. Et Céline, qui elle, je joue jamais de son statut de docteur. Elle a dit, elle a sorti deux trois mots scientifiques. Et là, d'un coup, on a trouvé qu'il y avait un équilibrage qui se mettait en place, un peu plus de respect. Donc c'était un peu. Ouais, on l'a un peu mal vécu. Donc on a eu un refus catégorique. La seule chose qu'ils voulaient, par curiosité scientifique, curiosité scientifique. C'était même pas pour nous, en fait.
C'était pour eux, quoi.
Pour eux, ils voulaient tester la maman de Céline. Ils étaient OK pour tester la maman de Céline.
Donc, et vous, ils vous ont dit, c'est pas la peine, ou ils vous ont dit, vous testerez sur votre centre de PMA, là où vous irez, quoi?
Pas du tout. Non, non, ils ont rien dit. Ils nous ont dit, mais nous, il n'y a pas de projet parental, donc on ne vous teste pas. C'est tout. Il n'y avait rien. C'était fermé. Il n'y avait pas de...
D'accord.
C'était fermé.
Donc, en fait, elle se serait présentée à la caméra avec un homme.
Exactement. C'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, c'est bête, on aurait dû demander à un copain de venir.
Bah, c'est ça, au voisin.
Non, mais vraiment, hein, voilà. Juste,
c'est clair.
Je me serais mis moustache, je me serais fait appeler Elliot, j'en sais rien. C'est bon, c'était OK. Enfin, non, mais... Et vraiment, là, c'était... c'était discriminant.
C'était discriminant.
On a hésité à envoyer des courriers, etc., etc., mais on n'avait pas l'énergie. C'était le confinement, et puis entre deux, en plus, Céline a été débauchée pendant le confinement pour aller travailler en Belgique.
D'accord. Oui, c'est vrai que vous habitez à côté de la Belgique.
Voilà, maintenant on habite sur la frontière franco-belge, donc on est côté français, et Céline va travailler tous les jours en Belgique, et pas très loin de Charleroi.
De fait, qui est près de la frontière.
Donc la maman de Céline s'est fait tester.
D'accord.
Et elle est revenue négative. Hein, voilà, le test était, tout va bien, elle a deux copies. Donc, okay. On revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure.
Voilà, elle a deux copies, mais on ne sait pas sur laquelle...
Exactement. Est-ce qu'elle a une copie sur chaque chromosome, ou elle en a deux copies sur un chromosome et zéro sur l'autre chromosome. Il est indiqué en plus sur une phrase indiquant 10%, une marge de 10% que, effectivement, deux copies soient sur le même chromosome. Je suis désolée, mais en génétique, quand il s'agit de la vie des enfants, d'un projet de vie... Enfin voilà, quand on fait un enfant, c'est pour qu'il ait une vie heureuse, qu'il vive. Voilà.
Bah, qu'il vive.
Il n'y a pas une épée de Damoclès sur la tête. 10%, c'est énorme.
Bah,
c'est énorme.
1 sur 10.
Ah oui, c'est 1 sur 10.
C'est énorme.
C'est énorme. Ouais. Donc.
Tu ne peux pas prendre ce risque.
On ne peut pas prendre ce risque. Donc non. On s'est dit, comme de toute façon, Céline, on est travaillé en Belgique, elle a eu droit, par chance, à la mutuelle belge. Donc on a eu une prise en charge de PMA en Belgique, donc on a décidé d'aller faire notre parcours en Belgique.
Oui, et je pense que à raison.
À raison.
pour le coup, parce que même quand bien même vous auriez voulu le faire en France, ça aurait retardé quand même considérablement votre parcours, je pense.
Complètement, parce que 2021, la loi passe, etc. Le temps, on aurait pu commencer des inséminations que maintenant, je pense.
Exactement.
Et nous, Céline, elle a été enceinte sur 2022 et elle était considérée comme grossesse gériatrique parce qu'elle était au-delà de 35 ans. Donc, tu vois, enfin...
Je vois bien. Les termes. Horrible.
Voilà, mais le terme est quand même horrible, mais c'est comme ça.
Ouais.
Et en fait, quand on est arrivé du coup en octobre 2020 dans le Nord, on a appelé... moi, j'avais eu ton exemple, ton témoignage et j'avais le côté humain, je trouvais ça hyper le côté humain que tu en dégageais de ton expérience à Charleroi, je me suis dit c'est ça qu'on veut, tu vois, parce que j'avais contacté l'Espagne et c'est pareil, on m'avait envoyé un devis par mail, c'est pour faire un bébé, moi le fait que ce soit de la comptabilité comme ça, ça me plaisait pas,
c'est ça.
et en fait on arrive on arrive dans le Nord en plein confinement, parce que nous on était confiné 15 jours avant sur chaque confinement. Donc, j'appelle Charleroi et on m'indique que, en fait, c'est fermé, la PMA est fermée jusqu'à nouvel ordre à cause de la crise sanitaire.
Aïe.
J'ai dit, purée, il tombe à l'eau. Je dis, je vais regarder un peu partout ce qu'il y a, etc., etc. Et il y a la ville de Mons qui est à 30 minutes de chez nous. Charleroi est à 1h, 1h15 et Mons est à 30 minutes. Et j'appelle Mons et puis il nous donne un rendez-vous en janvier. Donc on a rendez-vous en janvier. On part à Mons. Et puis là, très très mauvais ressenti. On est sorti du rendez-vous. On avait envie de pleurer en fait. Le gynécologue ne connaissait pas la pathologie. On l'a trouvé très froid, pas du tout chaleureux. On s'est dit mais s'il nous arrive une quelconque bricole.
Ouais.
Dans notre parcours, c'est pas sur lui qu'on va pouvoir s'épancher, hein, clairement.
Ouais.
Du coup, c'était début janvier, je crois qu'on devait avoir le rendez-vous le 6 janvier, un truc comme ça. J'ai dit, je rappelle la PMA de Charleroi pour voir si ça a réouvert. Et là, je tombe sur une dame. Oui, tout à fait, on a réouvert hier, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau. Rendez-vous dans un mois. Wow. On a eu le 6 février du coup 2021.
Excellent, excellent. C'est vrai qu'ils sont très très chaleureux. Enfin, là, y a pas... Et puis ils sont rapides, tu vois, malgré la crise sanitaire qui a dû décaler des rendez-vous, ils arrivent à te caler un rendez-vous rapidement.
Ouais, plus rapidement. Et puis il y a quand même ce côté avec la gynécologue, nous on a pu, on a son numéro de portable.
Ouais.
S'il y a besoin, il y avait besoin, on pouvait lui envoyer un message sur son GSM, quoi. Mmh. Donc, sur son téléphone, pardon.
Oui, il n'y a pas de souci.
Et voilà, vraiment très très bienveillante et. Très, très bienveillante. Et quand on lui a parlé, du coup, on a eu rendez-vous. Et quand on lui a parlé de la pathologie de la famille, du petit-neveu, elle nous a dit, tout de suite, vous allez au centre de génétique de Charleroi. Elle nous a fait un courrier. On a eu rendez-vous 3 semaines après pour se faire tester toutes les deux. Et on a été considérés comme un couple à part entière dans un projet parental. Et ça a été, ça a fait du bien. On s'est senti à notre place, quoi.
Mm-mm. C'est vrai que moi, c'est ce que j'avais ressenti à Charleroi, c'est que on est un couple infertile comme un autre et on nous aide en tant que couple infertile. Et il s'avère que vous avez besoin d'un DPI, on fait un DPI, point. Il n'y a pas de question, quoi.
Et puis, quand tu as le rendez-vous, il te montre tes antécédents, etc., etc. Mais, et puis, la prise de sang, c'est tout de suite. Moi, j'ai pu faire aussi de mon côté, comme ça, j'ai pu savoir si j'avais un X fragile, risque de mucoviscidose, risque de trisomie, etc. J'ai payé 800 euros. J'ai payé 800 euros. C'est pas donné. Tout le monde ne peut pas se le permettre, en fait. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais je l'ai fait quand même. Du coup, ça m'a permis de savoir que je partais sereine. Mmh. Et Céline, elle s'était prise en charge par la Belgique. Tu vois ? Donc, je me dis, c'est quand même franchement bien. Mmh. Et roulement de tambour, on a eu les résultats 2 mois après. À ton avis ?
Positif.
Elle est porteuse de la pathologie. Voilà.
Ouais.
Elle est porte saine.
Ouais, et donc sans surprise, vous le pressentiez.
Oui non, je sais pas si on le pressentait, mais on voulait quand même être s'assurer que, on voulait quand même être sûr, tu vois.
Et du coup, dans ce cas-là, une fois que t'es, enfin, donc là, on sait qu'elle est positive. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il vous propose de bénéficier d'un don d'ovocyte ou il teste aussi les échantillons de sperme et du coup, vous pouvez bénéficier d'un donneur non porteur.
Alors nous, c'était un donneur non porteur.
D'accord, oui, donc il teste.
En fait, en Belgique, il faut savoir que l'amyotrophie spinale infantile, elle est testée à la naissance de tous les enfants, un peu comme on fait le GUTI, on fait le GUTI à la naissance avec pas mal de pathologies. Et ben en Belgique, il y a l'amyotrophie spinale en plus.
D'accord.
Okay. Donc ça, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, ça fait partie de leur politique de santé, de la détection. Je pense qu'il devait y avoir pas mal de cas et du coup, ils ont dit, voilà, on va peut-être tester les enfants dès la naissance. Et puis maintenant, avec les nouveaux traitements, on peut drastiquement ralentir la maladie. Donc, ils ont plusieurs donneurs testés. Donc, du coup, nous, comme c'est la Belgique, c'est un don anonyme, on ne sait rien sur le donneur. La seule chose que l'on sait et ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il n'est pas porteur de la pathologie et que notre bébé à venir n'allait pas être malade, quoi. C'était ça qui nous intéressait le plus.
C'était l'essentiel, en fait.
Bon, aujourd'hui, on se doute qu'il a les yeux bleus et qu'il est blond, hein, parce que quand on voit Ambroise...
C'est ça. Mais je sais pas s'ils ont des donneurs bruns aux yeux bruns, parce que tous les bébés PMA belges sont blonds aux yeux bruns.
C'est ça.
Bref, c'est une petite private joke, mais c'est vrai que moi, ma femme est brune aux yeux presque noirs et mes filles sont très blondes aux yeux très clairs. Donc on s'était dit, bon, ils ont pas trop cherché à s'adapter, à apparenter, on va dire.
Ouais, non,
un donneur, voilà. Mais c'est pas très grave, elles sont très bien comme ça.
C'est parfait.
Ouais, exactement.
L'amour qu'on leur donne, le principal, hein. Franchement.
Exactement.
Ça me ressemble. Je n'ai rien à faire que mon fils me ressemble, hein. Franchement.
Le principal. En vrai, ça nous passe tellement dessus, au final. Enfin, tu vois, on se pose plein de questions avant, et une fois que le bébé est là, on est là. Mais non, mais en fait, c'est une évidence.
Ouais, je me suis pas trop posé la question, c'était juste savoir, il va ressembler à qui? Bon, en fait, quand il est né, j'ai fait, mais je te reconnais, toi, t'as la tête de ta mère, c'est le portrait craché de Céline. C'est un truc de fou, mais vraiment.
Ah, c'est marrant, c'est très très drôle. Et alors, du coup, ça a été simple, en fait, de bénéficier, enfin, je veux dire, vous avez pas eu d'attente spécifique pour trouver le bon donneur, ça a été...
Non, il n'y avait pas d'attente, ils ont plusieurs donneurs, en fait, qui sont testés. Ils ont plusieurs donneurs testés et du coup, ça permet d'avoir, dans notre cas, d'avoir un donneur testé et qui n'est pas porteur.
Et quasiment instantanément, quoi.
Mais quasiment instantanément. Nous, on a eu un petit peu, on avait quelques chirurgies à faire. Moi, j'avais une trompe bouchée, Céline, elle avait un polype, donc du coup, il fallait faire cette chirurgie-là. Et par rapport à son travail, Céline, elle ne pouvait pas le faire à l'été 2000, enfin, à printemps, été 2021, parce qu'elle avait beaucoup de projets. Du coup, elle l'a fait en octobre. Et on a pu commencer les premières inséminations en décembre. Il fallait laisser passer un cycle quand même après la chirurgie. Et on a pu commencer à faire le premier essai en décembre.
D'accord, ok.
2021.
Et 2021. Donc, en fait, vous avez commencé en janvier-février, finalement, et en premier essai décembre.
Ouais, c'est ça. Mais parce qu'il y avait
une chirurgie. Voilà, exactement. Non, sinon, c'est vrai que chez Charleroi, pour le coup, ça va relativement vite. Donc, du coup, décembre 2021. Décembre 2021, première tentative.
C'est ça, on a première tentative décembre 2021, échec bêta HCG négatif, par contre Covid positif.
Oh, merde, pardon.
Alors qu'on avait fait Noël, j'avais testé tout le monde, je leur avais foutu tous des petits bâtons dans le nez, etc. Parce que c'était ma passion de vie de tester des gens. Et on avait fait attention, pas trop de câlins, pas de teint, tu vois vraiment. Et c'est, il m'a dit... Et puis on arrive, et puis voilà, positive le même jour, hein, franchement.
Ah, finesse.
Le 27 décembre, et après, on s'est relancé le cycle d'après.
D'accord.
Insémination le 31 janvier.
Et
2022. Et le 2 février, Céline me dit, j'ai un bébé dans le ventre.
Le 2 février 2022.
Avec voilà, le jour après l'insémination, 2 février 2022, elle me dit, j'ai un bébé dans le ventre. Je lui dis, ah bah, ouais, peut-être. Le week-end, elle me dit, j'ai envie de faire un test. Je fais, non, mais ça fait deux jours. Le week-end, on part en Bretagne dans sa famille. Sur la route du retour, elle fait, non, mais je veux faire un test. Je dis, mais même les tests précoces, ça sera négatif. Ça sera négatif, c'est sûr. On était à 6-7 jours. Donc, elle me dit, mais je suis sûre que j'ai un bébé dans le ventre. Je dis, je te crois.
Je ne peux pas le savoir tout de suite.
Le lundi, mardi, elle ne me dit rien. Le mercredi, je reviens. Elle était en télétravail. Je reviens du boulot. Elle avait une rhinite de feu de Dieu, mais elle était mais en PLS, avec deux mouchoirs dans le nez, parce que ça, c'était un gros pinet. Et elle me dit, je vais faire pipi sur un stick. Bon, je dis, bon, allez, viens, on va à la pharmacie. Elle me dit, je suis malade. J'ai pas de... Je dis, sinon, j'y vais toute seule. Ben non, il faut que je vienne avec toi pour aller chercher les tests. Enfin, elle est jamais chiante. Mais là, elle était pénible, elle m'a fait trop rire. Donc, on a fini par aller à la pharmacie. Le lendemain, on a fait le test et c'était positif.
Waouh, elle le savait.
Elle l'a senti. En fait, dès le début, elle fait, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Mais le mercredi, c'était le 2, elle fait, j'ai un bébé dans le ventre. J'ai quelque chose dans le ventre. Ça...
Waouh, elle connaît bien son corps.
Ah, elle connaît parfaitement son corps. Les cycles, les machins, les trucs, elle est au taquet.
Oh, c'est incroyable. Incroyable.
Elle a une belle lecture d'elle-même. Franchement, elle est incroyable. Elle est incroyable de toute façon. Pas que pour ça, mais...
Excellent. Et alors du coup, est-ce que pendant la grossesse, vous avez dû faire des tests spécifiques du coup ou pas du tout puisque vous saviez que le donneur n'était pas porteur ?
On n'a fait aucun test parce que comme le donneur n'était pas porteur, donc dans tous les cas, il n'y a pas de risque zéro, mais il n'y avait pas de risque. Enfin là, le risque était très 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 infime, 0,0001%, tu vois.
D'accord, ouais.
Le risque, tu vois. Et la seule chose qu'on a fait, c'est le test pour la trisomie 21. Comme une grossesse. En fait, c'était une grossesse classique. C'était juste vraiment avant pour les tests génétiques qui ont été importants. Et ouais. Par contre, en bras, plus grand, parce que Céline, elle a peut-être distribué un chromosome sans SMN1 sur son... Uh-huh. Voilà. Donc, du coup, en bras, plus tard, quand elle voudra faire un projet parental, il faudra qu'il se fasse tester.
Oui, mais maintenant, vous le savez, donc vous pourrez l'informer.
C'est ça, on pourra l'informer.
Parce que je suppose que, en fait, le problème majeur, c'est que la mère de Céline ne savait pas.
Voilà, elle ne savait pas qu'elle était potentiellement porteuse. De toute façon, on l'a su quand le petit est né, en fait.
Oui.
C'est là quand notre neveu est né, c'est là que la pathologie a été connue, etc. Enfin, on savait pas, enfin... C'est passé de gène en gène. Et elle, sa grande sœur et son beau-frère se sont rencontrés et ils étaient tous les deux malheureusement porteurs de cette défaillance. Un sur 6 000, tu vois. Un sur 6 000, il y en a, ils se sont rencontrés.
Il y a des fois, ça se rencontre.
Ouais.
Et pareil, chez ton beau-frère, ça se... Enfin, je veux dire, la famille n'en avait pas connaissance non plus.
Non, je ne crois pas.
D'accord, ok. Ouais, c'est fou. C'est fou surtout de voir que quand tu sais qu'il y a un risque, on ne t'écoute pas forcément. Alors, il s'avère que là, c'était en France, ça peut être dans beaucoup d'endroits, hein, soyons clairs. La preuve en est, tu l'as dit, à Mons, tu n'as pas été forcément bien entendu non plus. Là, on a parlé du fait que de cette fait tester, vous avez pu bénéficier d'un donneur qui avait été testé et donc d'un donneur négatif. Enfin, en tout cas, non porteur de la pathologie.
Ouais.
Mais il existe aussi, et ça d'ailleurs, faudrait que j'enregistre un épisode un jour sur ce qu'on appelle le tri des embryons. Alors ça, c'est très très moche comme terme, mais globalement, c'est la possibilité de tester l'embryon qui est formé alors du coup forcément lors d'une FIV, hein, soyons clairs.
Ouais, c'est prêt, c'est des tests
pré-implantatoires.
Ouais, non, en fait, comme nous, c'était une insémination artificielle avec de tiers donneur. Du coup, on n'a pas fait de suivi, donc on n'a pas pu bénéficier du test préimplantatoire.
Oui, mais de toute manière, quand bien même si vous aviez dû passer par une FIV, en tout cas en Belgique, ils avaient ces donneurs-là, donc logiquement, vous n'auriez même pas eu à bénéficier d'un des pays.
Non.
Donc voilà. Après, je ne sais pas comment fonctionnent tous les pays, donc c'est clair qu'il faut se renseigner particulièrement quand vous avez une pathologie génétique, et je sais que, en général, alors très souvent, les couples le savent en amont, et donc du coup, mène des recherches en ce sens, en fait. Mais voilà, n'hésitez pas à changer de pays aussi parce que les lois ne sont pas les mêmes partout.
Non, c'est... Et puis... Et tu vois, moi, je m'interroge énormément sur... Tu vois, si on avait fait aussi confiance en disant, bah oui, 10%, c'était pas grand-chose, tu vois, d'erreur, et qu'on avait... si nous étions partis dans un parcours, par exemple, artisanal, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de se payer une PMA. Tout le monde ne peut pas se permettre de se payer des tests génétiques en Belgique. Parce que tu vois, moi, je t'ai dit, j'ai payé 800 euros, mais je n'ai pas fait l'amyotrophie spinale. Parce que c'était 1200 euros à rajouter l'amyotrophie. Ou 600 euros, ça revenait très cher pour faire l'amyotrophie spinale. Je me suis dit, de toute façon, non, c'était dit, on teste Céline. Si c'est positif, si elle est porteuse, il y aura forcément un donneur trié. Tu vois, donc s'est dit... On réserve des paillettes, on a réservé des paillettes pour l'avenir. Du coup, on sait que il y a ce donneur-là qui est là.
Ouais, du coup, vous avez pu réserver pour avoir le même donneur qu'Ambroise.
C'est
pour
ça,
toi.
Exactement.
Enfin, pour quand toi tu porteras.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Ouais. Donc du coup, tu sais que le risque est pas là. Enfin, ne sera pas là.
Ouais, on peut pas parler de risque zéro en génétique ou dans la vie en général, mais voilà, le risque est extrêmement minime. Extrêmement, extrêmement minime.
Ouais. D'accord.
Et tu vois, je me dis, mais si on était parti, si nous étions partis dans un parcours artisanal, ou si nous avions pris un donneur sur Cryos, fait avec un gynécologue qui n'aurait pas appuyé notre demande auprès de la génétique, enfin, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et je me dis, je me pose la question aujourd'hui, comment ça se passe en génétique avec la nouvelle loi bioéthique? Est-ce que les femmes qui font leur parcours seules, est-ce qu'elles peuvent bénéficier aussi de tests génétiques? Est-ce que maintenant les couples de femmes aussi peuvent tester peuvent avoir accès aussi à ces tests? Toi, moi, ça m'interroge énormément. Il y a vraiment, on dit oui, d'un point de vue éthique, on peut pas posséder, on peut pas faire ce qu'on veut avec nos organes, avec notre ADN, etc., etc. Mais nos projets de vie derrière, notre vie, en fait, on dépend aussi de connaître si on est porteuse ou pas. Tu vois, c'était pas pour faire de l'eugénisme, dire on va choisir, on va décider de travailler notre ADN, etc., pour que avoir un enfant de telle taille et blonde, j'en sais rien, ou brun, ou châtain, ou roux, tu vois, c'était pas ça. C'est vraiment, c'est des vies. Parce que tu vois, le petit, moi je l'ai jamais connu, tu vois, et c'est un cataclysme. C'est un cataclysme.
Bien sûr, pour la famille au global.
Pour la famille. Pour la famille, tu vois, c'est un enfant qui a été heureux, qui a quand même vécu en fauteuil roulant, avec une trachéotomie, avec une sonde gastro, qui avait de la kiné respiratoire plusieurs fois par jour, de la kiné motrice aussi plusieurs fois par jour, des soins infirmiers. Tu vois, c'est très invasif.
Et c'est très lourd,
oui. Ouais, il n'était plus en possession de son corps, cet enfant, ce petit-là. Et tu vois, c'est... Mais heureux, enfin, voilà, il percutait bien, enfin, de ce qu'on me raconte, ça a été le roi de la punchline.
Excellent.
Donc, mais voilà, mais c'est vrai que, puis on dit que les enfants sont résilients, et tout à fait, que c'est... Mais tu vois, c'est tragique, c'est tragique.
Ouais. Non, mais perdre son enfant, c'est pas dans l'ordre des choses, donc clairement... C'est tout à fait, enfin, c'est quelque chose que je trouve d'une injustice dingue. Et aujourd'hui, quand on sait qu'on a certains moyens pour l'éviter, je comprends pas qu'on le mette pas en place, en fait. Enfin, moi, ça me. Enfin, tu vois, c'est typiquement le type de cas où je comprends que certains couples qui auraient la possibilité, bon, maintenant, beaucoup plus de couples, mais qui auraient la possibilité de mener une grossesse, en tout cas, une conception en France, partent à l'étranger d'office. Parce que nous, on y va parce que jusqu'à présent, c'était le seul moyen de concevoir. Mais il y a des couples hétéros qui partent à l'étranger parce qu'ils ont les mêmes problématiques. Ils ont besoin, des fois, d'avoir même un DPI et qu'en France, ils ne l'obtiennent pas.
On ne l'obtient pas. Enfin, je me dis, mais c'est pas pour une pathologie, genre il a les pieds nés avec les pieds palmés. Enfin, tu vois, ouais. C'est un truc comme ça.
C'est pas de l'esthétisme, quoi.
Une maladie mortelle.
Ouais.
C'est pour des maladies mortelles qui ont un impact sur la vie de l'enfant, sur la vie des parents. Parce que tu vois, mon beau-frère et ma belle-sœur, elle était aide-soignante et elle avait dû arrêter son travail pour pouvoir s'occuper de son enfant.
Bien sûr.
Il y a aussi un impact financier. Il faut changer de maison, il faut réadapter la maison, il faut acheter du matériel, un fauteuil roulant électrique. Malgré qu'il y ait une prise en charge, ça coûte une blinde. Là, ils ont pu avoir, il me semble que ça avait été, qu'ils avaient pu avoir faire financer le fauteuil roulant grâce à l'association qu'ils ont créée. Enfin, tu vois, ce genre de choses, c'est...
Non mais bien sûr, bien sûr. Et puis tu vois, encore une fois, enfin nous, on passe par des parcours de PMA par défaut, donc on sait qu'on a besoin d'un tiers donneur la plupart du temps sur une des deux gamètes, parfois sur les deux. Quand t'as des couples qui sont des couples hétéros qui souhaitent concevoir un enfant naturellement entre guillemets et qui ont connaissance d'une pathologie potentielle au moins d'un des deux parents. Je pense que tu prends pas le risque et quand tu te présentes en PMA, on va te dire vous êtes pas infertile et on refuse tout le parcours finalement. Donc évidemment que tu pars à l'étranger parce que là on va t'écouter, on va t'entendre.
Donc tout à fait. Après, si nous étions un couple hétéro, on aurait pu bénéficier de la détermination génétique. On aurait eu droit à avoir notre rendez-vous en génétique, à ce que Céline se fasse tester.
Donc là, ils auraient été OK.
Ah, ils auraient été OK. Les cis hétéros, les cis genres hétéros, il n'y a pas de souci. Cis genres hétéros, tu pouvais accéder. J'espère qu'aujourd'hui, vraiment, ça a changé vraiment, que notre expérience était peut-être lié aussi au enfin voilà, je vais pas non plus mettre des couteaux dans l'eau au centre de génétique de Rouen, c'est pas ça du tout ce que je veux dire, mais c'est vraiment, j'espère que c'était peut-être lié aussi à la crise sanitaire, le stress, enfin plein de choses, il y a peut-être différents paramètres, mais honnêtement, on s'est senti discriminé et pas être considéré dans un projet parental avec un gros risque aussi pour notre famille, et aujourd'hui j'espère que ça a vraiment changé, c'est ça que j'ai envie que ça ait changé, qu'on me dise je suis allée à la génétique de tel endroit, on nous a donné rendez-vous, on nous a considéré dans notre projet parental et qu'on a testé ma femme ou mon mari, enfin ça dépend
des configurations
de famille et qu'est-ce qu'on se dit se faire tester. Enfin, il y a tellement de pathologies.
Et on le sait en plus. Hein.
Mais complètement.
Non, mais enfin, tu vois, du coup, je suis curieuse si les auditeurs qui nous écoutent, vous avez pu bénéficier. Alors, je sais même pas si c'est techniquement, chronologiquement, on va dire encore possible, parce qu'on sait qu'il y a des délais de fou dans les centres de PMA en ce moment. Si par hasard, par un heureux hasard, vous avez déjà réussi à bénéficier d'un diagnostic. Faites-nous signe, c'est hyper intéressant comme données, quoi. Et ce serait super rassurant, surtout.
Oui, ça serait rassurant.
Ouais. Et aujourd'hui, Ambroise est née, donc ?
Mais oui, il est né le 22 octobre, il est adorable, c'est un petit sucre d'orge, je l'aime d'amour.
Il y a beaucoup de deux dans tout cette, toute
Oui,
cette
le
conception.
22-10-22, c'était le 22-10-22.
Voilà. Et le 2 février 2022, c'était waouh.
Alors, l'insémination, c'était 31
Oui, c'était 31.
janvier 2022, mais le 2, elle était là au taquet.
Elle
Le
était sûre.
2-2-22, elle était au taquet.
Beaucoup de deux. Non, mais voilà, c'est hyper rassurant parce que vous avez pu, et puis vous savez que même dans l'avenir, votre famille sera protégée au moins de cette pathologie-là.
Oui.
Et c'est pas rien, puisque voilà,
exactement.
vous avez souffert, alors pas toi directement, entre guillemets, mais encore aujourd'hui, ça imprègne toute la famille, et donc forcément, je veux dire, c'est une souffrance, je me doute que ça reste une souffrance.
Oui,
Donc,
complètement.
bah, évidemment. Donc, voilà, c'est vous savez que vous avez préservé votre famille d'un nouveau deuil, parce que même si les traitements permettent de ralentir, je suppose qu'ils permettent pas encore complètement d'arrêter la maladie, ça viendra, hein, ça viendra, mais pour le moment, c'est pas encore le cas.
Bah, il y a vraiment de beaux progrès dans la médecine et c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Je te mets les liens comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir des informations sur cette pathologie, comme ça, ils auront les informations.
Bien sûr. Et puis, je partagerai ton compte comme ça, si certaines personnes peuvent se retrouver confrontées pour peut-être même une toute autre pathologie, un refus de diagnostic ou témoigner dans le sens inverse, au contraire. Voilà, pour qu'ils puissent te retrouver.
Oui, entendu. Bah, avec grand plaisir, je répondrai aux questions.
Super. Je te remercie beaucoup, Élise, d'avoir bien voulu témoigner sur cette spécificité qui est, enfin, de votre famille, mais qui peut, du coup, comme tu l'as dit, concerner finalement quand même beaucoup de monde. Parce que la preuve en est, hein, même si c'est une personne sur 6 000 porteuses, deux personnes peuvent se rencontrer et mener une grossesse à terme avec un bébé qui finalement est viable. Ça se voit pas à l'échographie, donc
Non, ça se voit.
Voilà. Enfin, aux échographies d'ailleurs. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir informé, alerté et surtout d'avoir donné à nos auditeurs conscience qu'on peut, encore une fois, déjà se faire confiance et aller ailleurs si on n'est pas satisfait ou satisfaite de l'accueil que l'on reçoit quelque part.
Tout à fait. Faut s'écouter. Écoutons.
Exactement. Et exactement. Faisons-nous confiance. Écoutons notre instinct.
Oui, c'est ça.
Je te remercie beaucoup, Élise, et je te dis à très bientôt.
À très bientôt. Je te remercie de m'avoir accueillie.
Je t'en prie.
Ces temps-ci, je manque un peu d'inspiration pour les outros. La période est intense avec les jours fériés qui plombent l'efficacité mais qui font tellement de bien au moral. Avec le collectif, l'effervescence est à son comble. Le Family Pride Festival arrive très très vite et occupe à lui tout seul une bonne partie de nos journées de travail. J'espère d'ailleurs vous y retrouver afin de faire porter votre voix durant les enregistrements que je vous proposerai en marge des tables rondes. En conséquence du festival, il n'y aura pas d'épisode la semaine du 22 mai, mais nous arrivons quasiment au 200e épisode, alors je pense que vous ne manquerez pas de témoignages. La semaine prochaine est une semaine de fête. Nous fêterons ensemble les 10 ans de la promulgation de la loi du mariage pour tous. Comme chaque année, je vous proposerai quelques épisodes, 5 pour être précis, vous permettant de vous plonger dans des demandes en mariage sensationnelles. Encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à les enregistrer. Je vous remercie à tous pour vos participations. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Vous pouvez le faire par le biais de la page Steady du podcast, dont le lien se trouve en bio du compte Instagram @lesenfantsvontbienpodcast. Si vous souhaitez me soutenir autrement que via la page Steady, parce que votre soutien, quel qu'il soit, est précieux, vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en partageant le compte Instagram du podcast ou les épisodes dans vos stories. Vous pouvez aussi le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Inside my chest, so I grab what I can cling to, and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was love.
Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.